Le temps est un allié formidable. Les expériences, même mauvaises, sont des alliés formidables aussi. Se tromper, se planter, réaliser qu'on fait des erreurs ou qu'on n'est pas sur la bonne voie, c'est primordial en fait. Il n'y a pas d'échec. Les échecs sont juste un moyen de trouver la bonne voie pour la suite.
Bonjour à tous et bienvenue sur Les Clés du Gîte, le premier podcast à donner la parole à des propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes. Je m'appelle Laura et je suis moi-même gérante du gîte Le Moulin de Bernard depuis janvier 2019. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir chaque premier jeudi du mois le témoignage d'un hôte en activité. Ensemble, nous retraçons son parcours, ses difficultés, les obstacles auxquels il a été confronté, mais aussi ses réussites pour vivre de sa passion au quotidien. J'invite également à mon micro, tous les troisièmes jeudis du mois, un expert qui nous partage ses connaissances et recommandations pour que vous ayez toutes les clés en main pour lancer votre projet. Les Clés du Gîte, c'est le podcast qui vous accompagne en faisant de nos expériences votre réussite. C'est parti pour l'épisode du jour. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et je pense que c'est tout à fait l'état d'esprit de mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline de Maison Mastrorelli, une magnifique maison d'hôtes située sur la Côte d'Azur. J'ai beaucoup de mal à écrire cette introduction tellement Céline a partagé de conseils et que je ne sais pas lesquels mettre en avant. Nous avons parlé ensemble de l'importance de s'écouter, que nous ne croyons pas aux erreurs mais aux leçons et que le temps est toujours notre allié. Céline a monté toute seule son projet, géré les travaux, imaginé chaque détail et développe désormais l'activité en suivant son instinct et ses propres envies. Avec Céline, nous abordons des sujets variés comme les finances, les difficultés rencontrées lors du chantier ou encore son choix de ne pas travailler avec Booking. Enfin, elle m'a donné le mot parfait pour définir notre métier, mais pour le découvrir, il vous faut écouter l'épisode en entier. Alors, bonne écoute à tous! Bonjour Céline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Laura, écoutez, c'est un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup de m'avoir invitée.
Tu t'es installée assez récemment, il me semble, puisque je crois que la maison, tu l'as repérée en 2019, si je ne me trompe pas. On se situe en Côte d'Azur, mais il n'y a pas mieux que toi pour nous raconter tout ça. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide et puis après on rentrera dans le vif du sujet?
Bien entendu. Alors oui, effectivement, on est sur la Côte d'Azur, dans l'arrière-pays cannois. La Côte d'Azur, elle a plusieurs visages. Il y a évidemment la Côte d'Azur qu'on a en tête, qui est la mer et les plages. Et puis la Côte d'Azur, c'est aussi la montagne. Et nous, on est entre tout ça. C'est-à-dire qu'on est à équidistance entre la mer, la montagne, un peu la campagne autour. Donc, une position assez chouette, vraiment, pour visiter la Côte d'Azur. Et elle est située vraiment, c'est le parcours idéal pour faire les plus beaux villages de la Côte d'Azur. Donc, ça, c'est chouette. Rencontre avec la maison, effectivement, en 2019. Première visite, puis je l'achète finalement en 2020. Je fais un an de travaux. Et j'ouvre en avril 2021. Là, donc, ça fait 7-8 mois, quoi.
Et alors, cette première saison, contente?
Ah oui, ça dépasse mes espérances, vraiment.
Ah, génial.
Je pense que quand on ouvre une maison, quand on se lance dans un projet, peu importe lequel d'ailleurs, il y a ce fameux parcours où on projette un petit peu comme un business plan. Il faut qu'on sache où on va, etc. Il faut que on projette et on est toujours un petit peu pessimiste. Il vaut mieux parfois l'être d'ailleurs pour calculer au mieux. Et je m'attendais pas à autant de succès et de taux d'occupation dès le lancement. C'est vrai que c'est une vraie belle surprise. Je m'attendais pas non plus à ce que ça me comble à ce point comme projet. Et définitivement, c'est un très bon choix de vie de ma part.
Comment justement il est venu ce choix? Je pense que tu avais une autre activité avant. Est-ce que c'était quelque chose que tu gardais depuis longtemps et puis le moment est venu de te lancer? Comment s'est construite cette nouvelle aventure?
Oui, j'ai été dans la communication pendant une quinzaine d'années. Parallèlement, j'étais auteur-compositeur et chanteuse, donc j'ai fait des albums, une tournée, de la musique parallèlement. Et au bout de ces 15 années, un petit ras-le-bol de tout, et puis la quarantaine qui va approcher, toujours cette petite remise en question, on se dit « bon, changement de vie, pas changement de vie ». Le truc, c'est que je ne savais pas exactement ce que je savais faire. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je sais faire? J'ai pas vraiment trouvé la réponse, hors de ce que je faisais déjà et que je n'avais plus envie de faire. Donc, je me suis posé la question différemment et je me dis, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Et en fait, accueillir, recevoir, faire à manger, c'est des choses que je faisais depuis toujours. Mais j'étais loin d'imaginer que ça pouvait être un métier, en fait. Et puis si, c'est un métier, c'est une activité. Et la maison, pour moi, elle regroupait toutes mes passions. On peut y rencontrer des gens, on peut cuisiner, on peut jouer de la musique, on peut tellement faire de choses dans une maison. C'est ça qui est fantastique, en fait. C'est un lieu. Ce lieu regroupe tout ce que j'aime.
Oui, toutes tes passions, et en fait, en un lieu, il y en a 1 000. Parce qu'effectivement, tu le modules comme tu en as envie.
Bien sûr, il n'y a pas deux journées qui se ressemblent à la suite. Les semaines, la maison étant assez modulable, il y a différents types de séjours. Et puis, de toute façon, ce n'est pas les mêmes personnes. Donc, il n'y a pas du tout de routine. Routine ennuyeuse parce qu'il y a une autre routine qui fait partie de la préparation de la maison qui est importante, mais il n'y a pas d'ennui en tout cas, loin de là. C'est toujours un vrai bonheur de se réveiller le matin et de se dire, mais la chance que j'ai de faire ce que j'aime dans la vie.
T'as mis du temps à trouver cette maison?
Oui,
T'avais fait beaucoup de recherches?
j'ai fait, c'est un long process, vraiment. D'abord, je suis partie. Je suis de la Côte d'Azur, je suis de Cannes, je suis originaire du coin. Mais d'abord, j'avais pensé à prendre une maison dans le Luberon. Alors, au lieu de directement acheter une maison dans le Luberon, je suis allée louer une maison pendant 1 an pour y vivre dans le Luberon, pour voir comment c'était en hiver, par exemple. Parce que on sait très bien que ce genre d'endroit, c'est prisé par toute la France et l'étranger, on va dire de mai à fin septembre, mais on connaît pas trop, on sait pas trop comment ça se passe en hiver, à quoi ça ressemble le Luberon, etc. Donc en fait, j'ai fait ça avec deux endroits. J'ai vécu 1 an à Beaulieu, dans le Luberon, et 1 an à Bargemont, dans le Var, village perché, etc. Et en fait, au bout du compte, je me suis dit non, mais c'est chez moi que finalement que je me sens le mieux, parce que on est sur la Côte d'Azur aussi et qu'il y a il y a on a la chance d'avoir une très belle basse et arrière saison. Il y a pas vraiment il y a des saisons plus creuses, mais c'est des activités toute l'année. Et puis surtout, c'est chez moi. Donc en fait, ça répondait à la question et voilà. Donc après avoir recherché des maisons dans le Luberon, rechercher des maisons dans le Var, rechercher des maisons même à Arles. Je me suis finalement mise à la recherche de maisons autour de chez moi. Voilà.
Est-ce que tu dirais que ça t'a permis aussi de maturer le projet au-delà de la localité, de pouvoir aller plus en profondeur dans ta projection, dans tes envies, dans ce que tu voulais en faire?
Oui, bien sûr, bien entendu. Le temps est un allié formidable. Les expériences, même mauvaises, sont des alliés formidables aussi. Se tromper, se planter, réaliser qu'on fait des erreurs ou qu'on n'est pas sur la bonne voie, c'est primordial en fait. Il n'y a pas d'échec. Les échecs sont juste un moyen de trouver la bonne voie pour la suite. Tu vois ce que je veux dire?
Je suis complètement convertie par ça aussi. Je pense qu'il n'y a pas d'échec, il y a des apprentissages
Complètement,
et
ouais.
qu'en fait, il y a toujours une leçon à tirer et ça nous oriente vers autre chose qui est meilleure.
Oui, c'est ça. Et oui, effectivement, quand j'ai pris la maison, celle-là, je savais exactement et précisément ce que je voulais faire dedans et comment j'allais l'exploiter, ce que je voulais y faire. Et on n'est pas très loin. Vraiment, j'ai repris il n'y a pas très longtemps la description du projet du business plan quand j'avais juste visité la maison. J'ai repris le mood board, c'est-à-dire un petit peu le carnet de tendances avec les inspirations que je m'étais données pour le style de la maison. Et sincèrement, ça a été assez raccord en fait. Quand je réalise ce que j'avais prévu et ce que j'ai pu réaliser, on est assez raccord, hein.
C'était une évidence.
Oui, c'était... En fait, j'aurais pu me décourager. Sincèrement, il y a eu beaucoup d'obstacles, des crédits qui n'ont pas été acceptés, des ventes de mon côté qui ne se faisaient pas. Chaque fois qu'il y avait un problème, ou alors la maison, par exemple, elle n'était pas autorisée à faire une exploitation dedans. Vous savez, tu sais, le PLU, tout ça, parfois peut interdire. Voilà. Donc, il y a eu quand même, il y avait de quoi se décourager, au point où même je me suis dit, après 4 ans, en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'on m'a dit un jour, après 4 ans, mais Céline, tu crois pas que si ça se fait pas, c'est que ça doit pas se faire et que c'est pas pour toi? Et j'ai refusé totalement cette fatalité. Mais non, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que, mais non, il faut un peu de courage aussi, un peu persévérer quand c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et j'ai eu raison, voilà, j'ai eu raison de ne pas abandonner.
Je suis bien d'accord. Quand on voit le résultat, c'est juste incroyable. Voilà. Et si tu t'épanouis, alors oui, c'est le meilleur résultat. Et surtout, il faut dire à celle qui t'a dit de ne pas se lancer qu'elle ou il avait tort.
Peu importe, c'est pas, enfin, tu vois, c'est vraiment pas le problème de savoir qui a tort ou qui a raison. Mais c'est juste que parfois, les réflexions extérieures, qui sont censées être des conseils, te permettent de te faire ton avis définitif. Quand t'as un doute et qu'on va te dire, mais non, ça c'est pas pour toi. Et là, peut-être que tu réalises en disant, mais si, en fait, totalement. Ça se renforce, en fait, dans l'idée que tu veux faire ça et qu'il faut le faire. Voilà, il faut vraiment s'écouter. Arriver à s'écouter, bien sûr être à l'affût des conseils que les gens peuvent vous prodiguer, où on en a besoin, on en a tous besoin, mais savoir s'écouter soi-même, c'est vraiment la base.
Je suis tout à fait d'accord. Toi, tu étais toute seule pour monter ce projet ou tu étais accompagnée ?
Oui, je suis toute seule. À la base, quand j'ai voulu commencer l'activité, j'étais mariée. Et puis ensuite, on a divorcé. Mais justement, le projet a été à la limite quand beaucoup de personnes prennent une maison d'hôte en couple. Pour des raisons évidentes de côté pratique, le côté on n'est pas seul, le côté on sait tous très bien à quel point il y a du travail dans une maison d'hôte. Et en fait, moi, j'ai la contrepartie et l'avantage d'être seule. Alors, l'avantage, c'est que notamment, je n'ai pas fait de concession. J'ai fait exactement ce que je voulais faire moi-même. Parce que on a toujours, vu qu'on est deux personnes, il y en a toujours un qui voudrait plutôt un style comme ça et l'autre plutôt un style comme ça. Et qu'est-ce qui se passe au final? C'est un mélange des deux avec certaines concessions de part et d'autre. Et... là, si tu veux, l'avantage, c'est que j'ai pas fait de concession, j'ai fait que ce que je voulais faire. Mais l'inconvénient, c'est que on n'a pas quelqu'un vraiment en face pour savoir si on est sur la bonne voie. Donc, on peut avoir plus de doutes, on peut avoir plus de craintes, plus de peurs, plus voilà. C'est le revers de la médaille.
Tu pouvais quand même en parler à de la famille, des amis qui étaient assez impliqués ou pas?
Ah ouais. Oui, bien sûr, j'ai la chance d'avoir mon père qui m'aide beaucoup dans tout ce qui est manuel, travaux, jardin. Et puis, j'ai la chance aussi d'être accompagnée par mon amie qui a une agence qui s'est occupée de la maison, une agence de communication qui a fait le site entre autres, le site internet de la maison, Riviera O, donc c'est une agence. Vraiment, j'ai pu discuter sans filtre avec lui de l'avancement de ce projet. Donc oui, entre Henri Michel de Riviera O et mon père, j'ai eu quelqu'un, enfin j'ai eu des personnes qui m'ont donné de superbes conseils et qui m'ont parfois aussi retenu dans mes idées un peu trop démesurées ou voilà, parce que parfois on s'emballe.
Oui, et puis on veut tout de suite. Donc, des fois, il faut savoir aussi se dire, bon, on va patienter un peu, on laisse. Première étape, deuxième étape.
Comment exactement. Ça apprend la patience.
Oui, alors là, oui, ça c'est indéniable. Tu parlais tout à l'heure de crédit, donc j'imagine qu'il t'a fallu demander un emprunt à une banque pour pouvoir faire l'acquisition de la maison?
Oui, tout à fait. Ici, on se dit tout. On est là pour donner des conseils aux gens. On est d'accord. On n'a pas de filtre. On peut parler d'argent comme aux États-Unis. Il n'y a pas ce tabou français sur l'argent. Oui, j'ai, pour te donner une idée, j'ai emprunté le montant de mon apport. 50-50.
D'accord.
Donc, oui, c'est un lourd crédit. C'est sur 25 ans. Bon, voilà. Et puis les montants, ils sont pas anodins non plus. Donc c'est presque, j'avais pas le choix. Après, il y a toujours cet élément important qu'il a, je pense, important de demander à un banquier lorsqu'il nous accompagne dans un projet. C'est une franchise d'un an. C'est-à-dire que vous faites le crédit et vous demandez gentiment à votre banquier préféré d'attendre un an avant de payer les premières mensualités. Ça vous laisse le temps de démarrer l'activité, d'avoir au moins, parce que tout dépend en plus quand est-ce que vous récupérez le crédit ou quoi. Donc, si c'est en basse saison, c'est compliqué, on n'a pas de trésorerie, etc. Donc vraiment, je pense que la franchise, elle est hyper importante. Avoir un an d'avance pour mettre au moins 6 mois d'avance de crédit pour pouvoir payer ensuite, c'est important. Ça laisse passer une haute saison aussi. Parce que haute saison, basse saison, on a vraiment quand même une différence dans cette activité, on le sait.
C'est un excellent conseil. Toi, tu as fait un emprunt à titre personnel ou professionnel parce que tu parlais de business plan. Est-ce que ça veut dire que tu as monté du coup le projet en expliquant que les revenus de la location te permettraient de rembourser l'emprunt? Ou est-ce que pour la banque, c'est un achat à titre perso
Non, il s'agit vraiment d'une activité professionnelle. La maison a été achetée en SCI et l'activité est sous forme de SARL. Mon activité professionnelle, j'ai une société. Voilà. J'ai monté une SARL où je suis la seule, une SARLU, une associée unique. Moi, j'avais tout intérêt à monter une SARL parce que il y avait de lourds travaux. Et mine de rien, c'est bien de récupérer la TVA sur les travaux. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est que si c'est à titre personnel, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, la structure, j'avais envie en plus d'avoir des statuts hyper larges qui dépassent un petit peu l'activité uniquement de chambre. Donc pour ça, il fallait une structure et la forme juridique, c'est une SARL, effectivement. Donc c'est la société qui a emprunté. Moi, là-dedans, je ne suis que la gérante de la société. Voilà, mais je n'ai rien emprunté à titre personnel.
D'accord. Tu t'es fait accompagner par un architecte ou une architecte pour l'aménagement ou un maître d'œuvre. Comment tu as organisé ces travaux justement?
Alors, l'accompagnement, il est avec moi. J'avais beaucoup de travaux et je ne suis pas du métier. Donc, tout ce qui est estimation des travaux, déjà, il faut faire venir soit un maçon, soit un maître d'œuvre, soit un architecte qui va évaluer déjà le montant des travaux pour dire, voilà, il va falloir emprunter tant. Ça compte dans l'emprunt. Donc, pour ça, je me suis fait accompagner. Ensuite, il a fallu, moi, j'ai eu la chance que la maison, étant, tu le disais tout à l'heure, une ancienne auberge, elle était structurellement bien faite à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y avait déjà l'accès par l'extérieur, avec l'intimité à chaque chambre, sans passer par le salon ou la cuisine. Tu vois, on avait déjà, comme dans un hôtel, une porte d'entrée principale, une cage d'escalier et aux étages, les chambres desservies. Voilà. Donc déjà, ça, c'était hyper important et ça devrait faire partie, à mon sens, des conseils que je donnerais en premier pour acheter une maison, mais je pense qu'on va en parler après, c'est quelle est la structure. Parce que parfois, vous avez des maisons qui sont très grandes, mais le coût, ou même en très bon état, mais le coût pour la réaménager les pièces, faire venir de l'eau là où il n'y en a pas, avoir une salle de bain dans chaque chambre, etc., ça c'est beaucoup de frais. C'est possible, mais c'est beaucoup de frais. Et donc, moi, là où j'ai fait appel à un architecte, c'est je souhaitais qu'il y ait évidemment une salle de bain dans chaque chambre Donc, il a fait les plans. Ça, pour moi, j'étais incapable de, je suis pas archi. Donc, voilà, il fallait dessiner les plans. J'ai voulu mettre la clim réversible dans toutes les chambres. Donc, pour faire passer les tuyaux, tout ce qui est comme ça, technique, j'ai fait appel à lui. Il y avait un maître d'œuvre qui gérait le chantier. Et moi, je me suis occupée. Moi, en fait, comment j'ai fonctionné, c'est que quand j'ai vu la maison, je me suis mise sur ce fameux mood board, ce qu'on disait tout à l'heure, ce carnet de tendances où on a envie de dire qu'est-ce que je veux dans cette maison. Et là, j'ai pris des photos, paf, paf, dans chaque pièce, je dis voilà, je veux ce style, ces matériaux, etc. J'ai donné ça à l'architecte. Et ensuite, donc, on a ensemble défini, par exemple, la structure des salles de bain suite au mood board. Et à la fin, par contre, toute la partie décoration, je m'en suis occupée à 100%.
Tu avais déjà fait de la rénovation?
Non, première fois. Première fois. Première fois et peut-être pas dernière parce que je pense qu'on n'est jamais aussi prêt. On n'est jamais aussi prêt de se lancer sur un autre chantier que quand on en a terminé un. Hein.
Oui, c'est addictif.
Et puis parce que ça reste en tête, parce qu'on a du coup des nouvelles. Des nouvelles idées, c'est tout frais, on sait que là il y a des failles, il y a des pièges à éviter, etc. Ouais.
Est-ce que tout s'est bien déroulé pendant cette période de travaux? Est-ce que ça a été plus long que prévu? Des budgets ont explosé ou tu dirais que ça a été vraiment bien cadré?
Pas du tout, ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé, c'est pas un échec, c'est parfait, c'était parfait parce que j'ai appris beaucoup. En un an de travaux, j'ai appris énormément. Mais j'ai eu des problèmes partout, dans tous les postes, tous les postes de travaux, il y a eu des soucis. C'était l'enfer. Enfin, c'était l'enfer. On va mesurer les mots. Mais c'était pénible, épuisant et pénible, surtout pour un premier chantier. On a explosé l'estimation de budget. On a explosé l'estimation de temps. Et en fait, au début, on était parti avec un budget de 200 000 euros de travaux. Et 3 mois de travaux.
Ah, rapide.
Oui, parce qu'on se disait, bon, allez, 3, 4 mois, l'intérieur, c'est fait. Le permis de construire de la piscine, enfin, la déclaration préalable avait déjà été faite. Il n'y avait plus qu'à, avait déjà été accordé par la mairie, donc il n'y avait plus qu'à. Voilà, moi, j'ai eu, OK, il y en a pour 200 000 de travaux et il y en a pour 3 mois de travaux. Bon, bah, il n'y a aucun de ces deux chiffres qui a été respecté, vraiment aucun.
Et c'est de la faute à qui, tu penses? Est-ce que c'est une mauvaise estimation, des vraies mauvaises surprises à chaque fois, ou est-ce que c'était des choses qu'on pouvait anticiper?
Alors, il y a oui et non. Les choses qu'on ne pouvait pas anticiper, c'est que moi, mes travaux, ils ont commencé le premier jour du confinement. Donc déjà, il n'y avait pas de problème pour la main-d'œuvre parce que c'était deux personnes de la même famille qui travaillaient ensemble et donc qui pouvaient continuer à travailler. Par contre, il y a eu des problèmes dans les livraisons de pièces détachées, tout ce qui venait d'Italie, tout ce qui venait d'Angleterre. Je pense à la robinetterie, au corps encastré, ça a mis des semaines. C'était des délais de livraison qui étaient passés à la base, qui devaient être de 4 semaines, qui sont passés à 12 semaines. Donc, quand vous n'avez pas les corps encastrés dans la salle de bain, ben, vous ne pouvez pas faire, vous pouvez pas avancer la salle de bain. On ne peut pas poser la tuyauterie, on ne peut pas faire on peut pas poser le BA13, on peut pas, voilà, on peut pas avancer. Donc, toute cette partie-là, je dirais que je dirais que c'était pas prévisible. On savait pas qu'on allait avoir le Covid. On savait pas tout ça. Et une autre partie qui aurait été effectivement pu être, qui aurait pu être évitée, avec peut-être un peu plus de conscience professionnelle de certains corps de métier. Et puis j'ai appris en cours de route aussi que sur un chantier, même si en tant que cliente, on ne sait pas faire grand-chose, il faut être là tous les jours. Tous les jours. On ne laisse pas un chantier. Enfin, si, on peut le laisser, hein, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Par contre, si tu es là tous les jours, je te garantis que ça avance plus vite. Et surtout, ça avance dans le bon sens parce que la cliente étant sur place, tu as le maçon qui peut te dire ça, vous le voulez plutôt comme ça ou comme ça? Voilà, il faut être là. Il faut être là sur le chantier.
Et une fois que le chantier était terminé, comment tu t'es organisé pour la mise en vente, la mise en location? Est-ce que tu avais réussi à avoir une idée assez précise de la date à laquelle tu pouvais commencer à ouvrir? Comment ça s'est organisé au fur et à mesure?
Alors, j'ai terminé les travaux en février. Donc, en février, la maison était vide. Et vide. Ça donne le vertige, en fait, parce qu'on se dit, OK, la maison, elle est finie, elle est toute belle, elle est toute propre, mais il n'y a pas une petite cuillère, il n'y a pas un torchon, il n'y a pas une assiette, il n'y a pas un matelas. Il faut meubler une maison entière. Moi, je partais de rien, j'avais pas de meubles à apporter, j'avais rien. Et effectivement, c'est assez vertigineux. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré commencer à habiter sur place, même avec très peu de choses, pour pouvoir acheter en étant déjà dans la maison. Pour pouvoir vivre dedans, j'ai voulu vivre dedans pendant 2 mois complets pour voir. Il n'y a qu'en vivant dedans qu'on voit ce qui manque. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas. On a beau faire ça depuis l'ordinateur dans une autre maison, dans un autre appartement. C'est en vivant qu'on va dire, mais ah mince, j'ai pas de tire-bouchon, ou mince, j'ai pas. Voilà, équiper une maison à 100%, il faut être sur place. Là aussi. Et donc, je m'étais dit, bon, ben, je vais ouvrir pour les vacances de Pâques. Je rappelle qu'on est encore en Covid. Et en fait, au dernier moment, le président a avancé les vacances de Pâques. Donc, j'ai ouvert 15 jours plus tôt. Je me suis vraiment pliée aux vacances de Pâques en me disant, bon, bah, les gens, ils vont vouloir se confiner dans une maison plutôt que peut-être un appartement. Ils vont vouloir passer cette période de confinement dans un environnement peut-être un petit peu différent que le leur, avec plus d'espace. Donc, voilà, c'est parti de là. Et effectivement, la maison a été louée toute la durée du confinement directement. Enfin, une quinzaine de jours directement.
Tu l'as mis en vente sur quel site?
Alors, ça, c'est un travail justement qu'on a fait avec l'agence Riviera Eau qui m'a accompagnée qui a fait vraiment des comparatifs, qui a pris le temps de voir où il fallait être et pas être, qu'est-ce qui était le plus pratique, qu'est-ce qui prenait le plus de commissions. Et on est en location, enfin en vente sur deux plateformes principalement. Je fais appel à une plateforme qui s'appelle Amenities, qui est une centrale de réservation d'hôtellerie, donc qui marche très bien pour tout ce qui est chambre d'hôte. Ça, c'est mon back-office du site internet de la maison. Donc ça, c'est pour une réservation en direct, sans plateforme extérieure, d'accord? Et ensuite, elle est en vente sur Airbnb. Voilà. J'ai fait le choix de ne pas être sur Booking. Très peu de flexibilité de ma mise. Booking, c'est une machine énorme. Les commissions sont grandes. Il n'y a pas de contact avec le locataire. Et c'est. Pour moi, c'était une trop grosse machine. Ça convenait pas à l'image de la maison. Voilà. Et puis, je trouve quand même que sur Booking, on est vraiment plus dans la chambre, la location de chambre. Et moi, il faut pas oublier que je loue la maison en entier. Et qu'est-ce qui va. Je loue aussi la maison en entier. Par exemple, sur mes plateformes, sur ma plateforme Airbnb, j'ai donc un compte avec 4 logements. D'accord? Donc, j'ai un même compte de la maison Mastrovelli où il y a la chambre 1, la chambre 11, la chambre 111 et un quatrième compte avec la maison. Et je le vois, j'ai très peu de réservations à la chambre sur Airbnb, alors que j'ai énormément de locations de la maison sur Airbnb. Et moi, l'activité au début, la plus rentable, on va pas se mentir, c'est de louer la maison entière. Donc, pourquoi j'ai privilégié Airbnb à Booking? Parce qu'avec Booking, j'aurais eu plus de locations en chambre d'hôte qu'en maison entière. Je ne voulais pas non plus multiplier les plateformes. Voilà.
Oui, je voulais savoir si tu as une idée un peu du pourcentage que tu as en gîte et pourcentage que tu as en chambre d'hôte, du coup.
Oh, on est à 90%, 80% peut-être, 80% maison entière.
D'accord. Dans ce cas-là, tu ne vis pas sur place, tu n'as pas une dépendance ou quelque chose comme ça tu...
Non, je n'ai pas de dépendance. Okay. Mais j'ai surtout aussi pas encore de recul sur une année complète.
Oui.
J'ai ouvert, moi je voilà, ça c'est important. Moi je ferme la location à la chambre en haute saison. En très haute saison, c'est vraiment que la maison entière. En juillet-août, c'est que à la semaine. Sinon, je ne tiens pas la rentabilité du projet. Pendant les vacances scolaires de Pâques, je veux dire des beaux jours, par exemple, pareil, là, c'est que maison entière. Et la chambre d'hôte, ça va être que en basse saison ou alors que pendant les vacances de la Toussaint, par exemple, qui sont des vacances sympas, où on peut prendre... Mais voilà, sinon, non, c'est clair que le ratio location chambre et location maison entière, il fait pas, il est indéniable. Enfin, la maison entière est nettement plus rentable.
Pour les fêtes de fin d'année, là, justement.
Pour les fêtes de Noël, la maison est louée. Oui, la maison est louée, ouais, entièrement. Elle a été réservée en gîte. Ouais.
Et pour toi, c'est compliqué de switcher à la fois sur une routine gîte et ou à la fois sur une routine chambre d'hôte parce que du coup, c'est absolument pas la même chose. Comment tu t'organises ?
Alors non, c'est pas compliqué parce que justement, il faut une petite organisation. Et surtout, c'est assez chouette en fait. Ça permet de justement ne pas avoir de routine. Pour l'aspect pratique, je laisse des affaires personnelles, mes habits, le linge de maison, dans des placards qui sont fermés à clé. Donc, j'ai pas systématiquement à vider la maison intégralement. J'ai aussi dans l'arrière-cuisine, dans la buanderie, un frigo, un petit frigo d'appoint dans lequel je mets mes aliments. Comme ça, j'ai pas non plus à chaque fois à utiliser le frigo de la maison ou à chaque fois vider le frigo, transporter tous les produits frais, voilà. Donc, j'ai mon frigo et j'ai mon placard. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est plutôt simple. Parce que, alors, je te cache pas que je passe ma vie dans des sacs. C'est vrai. Je suis toujours, chaque fois que tu me vois aller d'un point A à un point B, j'ai toujours trois ou quatre gros sacs avec moi. C'est évident. C'est évident. Mais ça va. C'est juste ça. C'est pas non plus très compliqué. Et j'habite du coup chez mon père quand la maison est louée. Et je suis à 30 minutes de. J'habite à Cannes, je suis à 30 minutes de la maison et je peux venir faire des allers-retours très facilement.
Pour le ménage, c'est toi qui t'en charges ? Est-ce que tu as de l'aide ? Est-ce que il y a certaines tâches que tu as déléguées ?
Oui, alors le pressing intégralement, à part quand j'ai un peu de temps devant moi et que je peux. M'occuper au moins des serviettes, de ce genre de choses qui ne nécessitent pas de repassage. Sinon, pour tous les draps, pressing, parce que c'est quand même... Moi, je n'ai pas la capacité d'avoir des machines spécialisées. Hein, et avec mon lave-linge, je n'aurai jamais le temps. Et puis même, ce n'est pas pareil. Il peut toujours y avoir... je trouve que c'est jamais assez nickel que quand ça sort du pressing, les draps... La propreté, c'est quand même primordial. Moi, il est hors de question que je les lave et que, je sais pas, que je les étende et que du coup, il y ait une herbe, une fourmi, un machin. On sait pas. Non, voilà. Le linge, tout ce qui est linge, ça sort du pressing, c'est emballé, c'est emballé, c'est nickel et au moins c'est fait, bien fait. Voilà. Pour le ménage, il a fallu. Et ça, c'est assez important. Il a fallu d'abord faire un tout premier ménage, voir combien de temps combien de temps la maison nécessitait en heures de ménage pour la rendre nickel entre deux locations. Ça permet de calculer ton heure d'arrivée et départ de tes locataires. Mon check-out, il est à 10 heures. À 10 heures, les clients doivent libérer les chambres. Après, qu'ils restent dans le jardin, c'est une autre histoire, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ils doivent libérer les chambres. Et à 16h, j'ai les arrivées. Donc, la première fois que j'ai fait le ménage, j'ai mis 20 heures. 20 heures de ménage. Donc, il était évident que je ne pouvais pas m'en occuper toute seule. Et on a très vite vu qu'il fallait être non seulement deux, mais même trois pour rendre la maison en temps et en heure entre deux locations, surtout en juillet-août où on n'a que le samedi, une fois par semaine, ce qui prend énormément de temps, notamment, moi je continue à faire le ménage, bien sûr. J'ai par exemple, je suis chargée de la cuisine, je sais que c'est mon truc, j'y passe 2 heures à chaque fois, vraiment 2 heures à 2 heures et demie, parce que c'est un ménage complet, c'est pas juste un coup de chiffon sur le plan de travail. Il faut vérifier chaque tiroir pour voir comment le locataire d'avant a rangé la vaisselle. Est-ce que, sans faire exprès, il aurait rangé une vaisselle qui n'était pas tout à fait propre? Est-ce qu'il a désorganisé les placards? Est-ce que, voilà, donc tout ça, ça prend 2 heures et demie à 3 heures pour moi, tout ce qui est rez-de-chaussée, cuisine, etc. Et pendant ce temps, je fais appel à une conciergerie qui me fait un prix, en fait, de ménage à l'heure, peu importe le nombre de personnes. Et ça, mais c'est fantastique. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'embaucher 2 personnes, je paye la conciergerie à l'heure et ils viennent, selon les besoins, à 2 ou à 3. Et je paye toujours 1 heure. Voilà, donc ça, ça a été fantastique. Et en plus, un service de conciergerie que j'ai eu la chance de trouver dans ma ville et qui est formidable et qui est de toute confiance, qui a appris la maison, qui la comprend, qui l'aime comme si c'était la sienne et donc en qui j'ai totalement confiance. Mais je gère toujours donc la partie ménage, je gère toujours la partie de l'accueil des clients et parfois quand il peut m'arriver d'avoir un impératif, ils prennent le relais, mais ça reste rare. Je suis très présente dans l'implication et l'accueil des clients.
Et pour la piscine, est-ce que du coup c'est ton papa qui vient pour aider pour les extérieurs ou tu as fait appel à un professionnel qui te permet de faire l'entretien, la vérification des produits, le check entre les locataires ou même pendant les séjours aussi?
J'ai un pisciniste effectivement qui vient une fois par semaine, voire plus quand il faut. Quand le client demande ou quand il y a eu de la pluie et qu'il faut nettoyer. Donc, mais généralement, c'est une semaine une fois par semaine, toute l'année. Parce que même en basse saison, normalement, on passe normalement à une fois tous les 15 jours l'entretien de la piscine. Mais moi, j'ai une maison qui vit beaucoup aussi des shootings photos. Donc, les extérieurs et la piscine doivent être tout le temps nickel. Voilà. Donc je reste sur une base d'une fois par semaine et j'ai mon père par contre qui s'occupe du jardin intégralement.
Comment tu as fait pour être démarché pour les shootings ou peut-être que c'est toi qui les démarches, mais comment ça s'organise pour pouvoir louer la maison pour des lieux de shooting ou de tournage?
Je n'ai rien démarché. Voilà. Après, je sais qu'il existe des plateformes où vous pouvez louer la maison à la journée pour des shootings. Il y a des sites pour ça, hein, bien sûr. Mais sincèrement, pour le coup, j'ai eu la chance de ne pas faire de démarches et les marques m'ont contactée par rapport à mon site Instagram.
Est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir accueillir ces équipes?
Non, il n'y en a pas. Je pense que après, il y a des services que je fais depuis et qui marche bien. Il y a des services qui sont là que je mets en place au fur et à mesure quand je me rends compte des besoins que peut avoir une équipe pour sa venue. Ils viennent pour travailler, donc ils ont besoin de se focaliser sur le travail, ils ont besoin qu'on leur facilite le travail. Une journée de shooting, c'est épuisant pour toute l'équipe, pour la photographe, comme pour le modèle, comme pour la directrice de la marque. C'est vrai que je dis beaucoup là parce que j'ai des clients très féminins. En règle générale, j'ai beaucoup de femmes qui viennent, qui viennent shooter à la maison. Et donc, moi, mon but, c'était de leur dire, bon, écoutez, on sait que vous avez du travail et on va vous faciliter la tâche. Donc, si vous avez des vêtements, par exemple, vous pouvez, et que vous n'êtes pas du coin, Vous pouvez nous les envoyer par colis. On les récupère, on les met sur cintre. J'ai acheté des portants, j'ai acheté un steamer. J'ai acheté des accessoires en fait qui vont juste permettre aux marques de venir moins encombrées, de savoir qu'on peut les réceptionner à l'avance, qu'ils sont installés, posés sur cintre. C'est un gain de temps. Je leur propose aussi une formule avec le déjeuner ou un craft, c'est-à-dire que durant leur journée, ils n'ont pas beaucoup de temps pour se poser et manger. Bon, bah, ils savent qu'ils ont des petits gâteaux faits maison, des fruits à volonté, boissons chaudes, boissons fraîches. Tout ça, ça fait partie du tarif shooting que je propose. Et en supplément, bien évidemment, ils peuvent déjeuner. Et là, récemment, j'ai acheté aussi, parce que j'essaye de comprendre au fur et à mesure quels sont leurs besoins, j'ai acheté par exemple un miroir make-up, tu sais, avec les ampoules autour du miroir qui permettent d'avoir la bonne lumière pour maquiller les mannequins. Voilà, ce genre de choses.
Quand il y a la restauration, c'est toujours toi qui fais la table d'hôte aussi, quand c'est en chambre d'hôte, les petits déjeuners et tout ça?
Oui, je fais ça avec plaisir. Je fais ça toute seule, sauf quand il y a généralement... enfin je dis sauf pour l'instant, c'est arrivé qu'une fois mais ça va se reproduire. J'ai réalisé qu'à partir de 10 personnes, sauf buffet simple, mais quand il commence à y avoir 10 personnes en pension complète pour des stages par exemple, des stages de yoga ou des gros dîners, là on va accueillir un dîner de 20 personnes, là j'ai besoin d'aide et on travaille à quatre mains dans ces cas-là, oui.
Tu as fait une formation pour cette partie cuisine ?
Alors, une formation, non. Mais pendant que je cherchais un peu ma voie, quand j'ai arrêté mon travail dans la communication et la musique, j'ai beaucoup cuisiné, surtout dans le Luberon où l'hiver est long. Donc, on passe son temps à cuisiner. Et ensuite, j'ai travaillé quelques mois dans un restaurant pour savoir, parce que, il y a une énorme différence entre recevoir ses amis à la maison, même en faisant les meilleurs plats du monde, et recevoir des clients dans un restaurant de 30, 40, 50 couverts. C'est un autre métier, c'est autre chose. Et donc, j'ai voulu avoir les deux. Et donc, j'ai travaillé effectivement dans un restaurant pendant quelques mois où je me suis aperçue que j'étais pas faite pour ça. J'avais pas envie de monter un restaurant parce que dans un restaurant, on est vraiment cantonné en cuisine, on n'a pas de contact ou très peu avec le client et les gestes ne sont pas les mêmes. C'est des gestes plus larges, plus grands, plus des grosses casseroles. Voilà. Et moi, finalement, j'aime le petit comité. C'est pour ça que je te dis qu'à partir de 10, généralement, je me fais aider. Je préfère être moins stressée, moins envahie dans la cuisine par tous ces gros accessoires et comme ça, ça se passe mieux pour tout le monde.
Tu fais quelle formule ? Est-ce que tu fais entrée, plat, dessert ? Est-ce que tout le monde est sur une grande table avec des grandes marmites ou c'est à l'assiette et des petites tables individuelles par couple, par famille, on va dire ?
En table d'hôte, pour l'instant, je fais table unique et j'ai eu la chance depuis le début de voir que chaque fois, les personnes qui se retrouvaient à table s'entendaient bien. Donc ça, c'est assez fantastique. Parce qu'on a toujours un peu peur de ça, on se dit bon, voilà. Mais pour le petit déjeuner, pour les dîners, c'est table unique. Et j'aime, alors il y a toujours un service à l'assiette, mais j'aime aussi à un moment donné, mon grand truc, c'est, enfin, ce que j'adore faire, c'est les plats en sauce et les plats familiaux. J'adore venir et poser la grosse marmite au milieu et que tout le monde se serve. C'est toujours une alternance et puis c'est surtout en fonction du mood aussi des clients, hein. Je m'arrête pas forcément à entrée plat dessert. Ça va peut-être être des petits plats à partager, du sharing, deux entrées, un plat ou pas de dessert. Il y a toujours quand même du dessert, mais voilà, avec ou sans fromage. Je me laisse porter. J'ai la chance de pas avoir de carte prédéfinie. J'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux au fil des saisons, avec des produits de saison et du coin. Donc, je ne suis pas restreinte par un menu fixe.
Et tu te mets à cuisiner à partir de quelle heure quand c'est pour la table d'hôte ?
Je demande aux personnes de me réserver le menu au moins la veille pour le lendemain. C'est-à-dire que s'ils ont faim le midi pour le soir, qu'ils me disent « Ah, on peut manger ce soir » et que je peux le faire, je le ferai évidemment. Mais c'est pour ça que quand je n'ai pas assez de recul ou de préparation, j'ai toujours quand même des petits services à l'assiette. Ils ont des petits tapas, un peu de charcuterie, du fromage local, une pizza à la bière que je peux faire assez rapidement. Il y a toujours quand même à grignoter. Je déteste laisser les gens affamés chez moi, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc, il y a toujours. Et sinon, quand ils m'ont commandé la veille pour le lendemain, je fais le petit déjeuner, je débarrasse le petit déjeuner et ensuite je file au marché et j'attaque pour le soir. Ma journée est consacrée au dîner. Donc, à partir de... Voilà, on va dire que je termine de débarrasser le petit déjeuner, ranger la cuisine, il est 10h30. 10h30, je file au marché. À midi, je rentre et j'attaque.
J'ai vu que tu travaillais beaucoup aussi avec des artisans locaux. Donc, j'ai vu que tu proposais les kimonos couleur chambre. Il y avait des draps de bain Meraki et que tu faisais aussi boutique hôtel. Quoi. Le même principe que boutique hôtel, si on a envie de repartir avec justement un élément de déco ou de bien-être, etc. Est-ce que c'était une volonté dès le départ dans le projet de pouvoir inclure ces partenariats, etc.
Ouais. Oui, tout à fait. C'était déjà un produit, c'était déjà dans le business plan, comme je l'avais voulu. Effectivement, je suis très contente de pouvoir. Là, par exemple, je vais avoir des nouvelles bougies qui arrivent de la maison, qui sont fabriquées par un artisan niçois. En verre avec des bouteilles de verre recyclées j'ai hâte de les recevoir. Ça s'appelle Maison Chin Chin. On fait une jolie collaboration là-dessus et j'ai adoré prendre le temps de choisir l'odeur, de dire ok, celle-là elle va à la maison, celle-là un petit peu moins, et de proposer ça ensuite aux clients s'ils veulent repartir avec un petit souvenir de la maison avec une odeur qui leur a plu. Il y a plein de choses qu'ils peuvent acheter sur place. Et c'est vrai que j'ai pas encore totalement eu le temps parce que c'est une boutique, c'est encore un autre métier, gérer une boutique. Donc j'ai pas encore eu le temps de le mettre vraiment en valeur, d'informer totalement ma clientèle sur le fait que bah ça, si ça leur plaisait, ils pouvaient repartir avec. Et c'est vrai que pour l'instant, ce que je vends, c'est juste des personnes qui me disent oh là là, mais vous l'avez acheté où? Où est-ce qu'on peut le trouver? Et je leur dis, mais ici, en fait, je le revends. Donc, ça n'a été pour l'instant, les ventes que j'ai fait en boutique, c'est que des personnes qui ont demandé, qui ont manifesté leur intérêt. Mais dès que j'ai un petit peu de temps, je vais vraiment me consacrer un petit peu plus à la liste de ce petit shop, quoi. Voilà.
Oui, parce que même tes produits d'accueil, ils sont, c'est un partenariat aussi. Ils sont personnalisés avec donc Maison Mastroreli et je crois que je ne sais pas comment on le prononce. Mikalef, je ne suis pas sûre de le dire comme il faut.
C'est ça, c'est exactement ça, c'est Mikalef, okay. Oui.
Et ça, ça a été quelque chose que tu... Oui, et c'est toi qui es allé les démarcher et te présenter et leur présenter le projet, etc. Ou c'est eux qui sont venus vers toi?
Non, c'est moi. C'est moi. Non, non, ils ne peuvent pas forcément savoir qu'on a besoin. Et puis surtout quand on n'existe pas, parce qu'il fallait... Bon, moi, j'étais en création. Donc je me suis renseignée, j'ai fait le tour. Les amenities sont importantes dans une maison d'hôte. C'est pour moi, je suis très sensible aux détails de l'accueil, donc c'était important effectivement cet aspect-là, et j'ai trouvé, et voilà, ça me convient très bien, et voilà. Mais c'est moi qui suis allée les démarcher. Oui.
Est-ce que tu prévois de nouveaux aménagements, de nouvelles prestations, de nouveaux équipements pour les prochaines années?
Non, je pense que là, sincèrement, sauf en termes d'événements où je vais un petit peu m'élargir. Mais en termes d'équipement, aménagement, je pense vraiment... J'avais voulu lancer la maison prête à l'emploi. Je pense l'avoir exploité ce qu'elle pouvait m'offrir à son maximum. On a la piscine, on a la cuisine d'été, on a la clim. Voilà. Après, maintenant, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir approfondir ou développer en type d'événement. C'est là que c'est important. Et j'ai effectivement envie de développer l'aspect restauration avec des pop-up, des chefs en résidence. J'ai une clientèle assez locale qui n'a pas forcément besoin de dormir sur place, mais qui a envie de venir à la maison, qui a envie de venir passer un moment. Et je pense que l'idée de ces dîners à durée limitée dans le temps, trois soirs d'affilée, quelque chose comme ça, ça peut ouvrir aussi la maison aux locaux, parce qu'il me semble que c'est important de rencontrer aussi les locaux, voilà, de pas les priver de venir passer un moment à la maison, et voilà. Donc pour ça, j'ai passé effectivement toutes mes formations, hygiène, restauration, tout ça, voilà, pour pouvoir accepter des personnes qui ne dormiraient pas sur place. Donc je suis aussi un restaurant.
Ah, génial. Il faut faire acquisition d'un fonds de commerce, quelque chose comme ça, ou c'est juste les formations HACCP, licence?
Le fonds de commerce, quelque part, il est déjà existant, hein, c'est la SARL. Moi, comme je t'ai dit, tu vois, je voulais justement, le but de prendre une SARL, de ne pas être en entité personnelle, c'est de pouvoir mettre dans les statuts de la société tout type d'événement. Et la restauration en faisait partie. Et ensuite, effectivement, le permis d'exploitation, HACCP, etc., etc. Voilà.
Un super projet encore à venir. Si on fait un petit bilan, quelle est la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confrontée ?
Financière. Financière, c'est ça. Ça peut être que...
Pour trouver la banque ?
Non, pour déterminer les prix de la location. En fait, ouais. En fait, aujourd'hui, la maison est remplie. J'ai un taux d'occupation vraiment super et je suis ravie. Mais les finances sont difficiles. Donc, quelque part, il y a encore des choses à améliorer, à affiner. Est-ce que la maison est au bon prix ? Est-ce que je dépense trop ? Est-ce que j'ai trop de charges ? C'est en réflexion. Et après, c'est normal. On est en première année d'exploitation. C'est normal de ne pas être en bénéfice. Je me déculpabilise aussi là-dessus. Effectivement, le plus difficile pour moi, qui est j'ai toujours envie de faire plaisir. Et c'est vrai que, par exemple, quand je dois faire à manger pour mes clients, je ne regarde pas à la dépense. J'ai envie de leur offrir le meilleur des produits de nos régions, les meilleurs des producteurs. Et tout ça, ça a un coût pour moi. C'est vrai que j'ai pas envie de m'en priver. Donc, il va falloir trouver un petit chemin pour continuer d'exercer quand même, parce que le but, c'est pas évidemment de courir à la perte. Mais c'est pour moi, si tu me poses la question, quelle est la partie la plus difficile? C'est la partie financière à gérer. C'est la partie comptable. Voilà.
Tu as un expert comptable pour t'accompagner, justement?
Oui. Oui, j'ai un aspect, c'est indispensable. Surtout avec une SARL, récupération de TVA, etc. On est sur ce type de société. On n'est pas sur une société personnelle.
Et à contrario, quel est ton plus beau souvenir ?
Oh, c'est la magie. La magie de... Moi, je suis quelqu'un de plutôt casanière. Et paradoxalement, j'adore rencontrer du monde. Et chaque fois, je suis émue d'attendre les clients qui arrivent et d'être je les attends sur à l'extérieur, sur ma table de repas extérieure, et il y a juste le portail qui s'ouvre et ils arrivent à moi, et chaque fois je trouve ça mais magique de rencontrer des belles personnes, des gens hyper intéressants, et en fait, quels sont mes plus beaux souvenirs? Mon plus beau souvenir, c'est vraiment ce sentiment chaque fois unique mais qui est un peu le même, de voir arriver un inconnu dans la maison et qu'ils repartent en amis. Le lien se crée de façon assez magique avec la majorité des clients.
C'est magnifique, parce que je pense que tu attires à toi des personnes qui partagent les mêmes valeurs, le même goût, qui sont peut-être épicuriens comme toi, qui aiment les belles choses, et donc finalement, effectivement, ça devient des amis, mais parce que c'est... Voilà, je pense qu'à travers la maison, tu as su attirer les personnes qui te ressemblent.
Ouais, c'est fantastique. Et chaque maison d'hôte attire ses clients. Et chaque fois, j'imagine que c'est partout pareil et la magie opère. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Après, les souvenirs merveilleux que j'ai, c'est quand des clients m'invitent à manger chez moi. C'est-à-dire que ce sont des chefs. parfois un chef qui vient de Los Angeles. Ouais, un chef qui vient de Los Angeles, qui cuisine super bien et qui me dit « Céline, ça me ferait plaisir de t'inviter à dîner. Ce soir, tu bouges pas, je te fais à manger. » Et là, c'est le buffet du siècle. Il me fait un repas extraordinaire. Oh là là. Voilà, c'est des moments magiques comme ça. C'est le lien qui se crée entre les personnes qui étaient des inconnues 2 jours avant et avec qui on va partager quand même une intimité. On partage...
Complètement.
On partage une intimité, le lien se crée et c'est fantastique.
Ah, c'est trop beau. Est-ce que tu aurais 3 conseils ? Tu en as déjà donné plein. Mais donc, soit tu veux reprendre ce que tu as déjà évoqué ou en reprendre des nouveaux, mais quels seraient les 3 conseils que tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer dans l'aventure d'une chambre d'hôte ou d'un gîte ?
Alors, règle numéro 1, bien choisir sa maison. Mais oui, mais c'est quand même pas rien.
C'est, le choix de la... c'est tout, justement.
Ouais. Le mouton à 5 pattes, il est difficilement trouvable, à moins d'avoir un budget totalement illimité. Selon moi, le conseil, c'est est-ce que tu as le coup de foudre ou pas pour cette maison et est-ce que tu te sens bien dedans? Est-ce que tu ressens que c'est là? Voilà. Comme avec une personne, quand on rencontre une personne et que c'est un coup de foudre, il faut que ce soit pareil avec la maison. Ça, c'est, il faut s'y sentir bien. Voilà, il faut s'y sentir bien. Donc, le choix de la maison, faire attention, prendre son temps, en visiter beaucoup. Beaucoup. Il faut en voir des maisons. Et même si on a les premiers coups de cœur à la première maison, la garder en tête et continuer d'aller voir ailleurs. Quand même, c'est important. Le deuxième conseil, de garder aussi un œil, une importance sur sa vie privée. Ma part de vie privée actuelle, elle est quasiment inexistante, mais parce que je le veux bien. C'est-à-dire que je suis pas mariée, je suis célibataire et ma vie privée, je la partage volontiers finalement avec mes hôtes. Mais quand on est peut-être en couple ou avec des enfants, moi, ma fille, maintenant, elle est grande, elle a 20 ans, elle a sa propre vie privée. Mais c'est vrai que essayer de, dans cette maison ou dans l'organisation de la maison, se consacrer un coin où on sait qu'on n'est pas dérangé quand on a besoin de ne pas être dérangé. Et le troisième conseil, c'est pas un conseil, c'est une question. Je pense que pour faire ce métier, il faut aimer les gens, aimer les rencontres. C'est pas un métier où on va... c'est pas un métier qu'on fait par dépit. Tu vois ce que je veux dire ? Et je sais qu'on a beaucoup, ces dernières années, eu cette tendance « Oh, ben, je sais plus trop quoi faire dans ma vie, donc je fais une maison d'hôte. » C'est pas « donc ». Il faut pas que ce soit c'est pas une solution de garage en fait, hein. Il faut investir le lieu, il faut l'animer, il faut le personnifier, il faut l'incarner. Donc, ou alors sinon on fait effectivement que de la location maison et là on est dans un schéma de rentabilité, etc. Mais voilà, est-ce qu'on a envie de faire plaisir aux gens? Est-ce qu'on est fait pour ça? Est-ce qu'on aime les rencontres? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier aussi une part de sa vie privée? Moi, je n'ai, par exemple, quand la maison est louée ou occupée sans moi dedans, il n'y a plus une fois où j'éteins mon téléphone la nuit. C'est rien, mais c'est quand même une préoccupation constante. Ma maison, il n'y a pas un moment où, si demain je décide de partir en vacances, je sais que je ne mettrai pas de clients à l'intérieur. Je veux pas être, je veux être tranquille. Si vraiment on veut être tranquille, voilà, c'est ça. Donc, la partie intime, qu'est-ce qu'on est prêt à consacrer de sa vie privée? Quelle est la part de vie privée qu'on est prêt à consacrer sur l'intimité? Est-ce qu'on aime les gens au point de les faire rentrer dans notre vie? C'est des conseils un peu bizarres que je donne, hein, mais je pense que tous ceux qui ont plus ou moins qui ont une activité de maison d'hôte comprendront ce que je veux dire par là.
Ah, c'est pas du tout bizarre. Moi, je trouve que c'est très juste, au contraire, et très pertinent, donc très intéressant. Parce qu'effectivement, moi, on me contacte souvent et on me demande oui, j'ai ce projet de maison d'hôte parce que j'ai envie de retrouver un meilleur équilibre, d'avoir plus de temps pour ma famille, etc. Et à chaque fois, je dis...
Ah, mais il y en aura beaucoup moins, il y en aura.
C'est ça, attention. En fait, c'est ce... l'équilibre, il sera peut-être juste parce que, voilà, mais il faut savoir dans quelles conditions. Après, c'est personnel et chacun met le curseur où il veut. Mais non, ce n'est pas du 9h-17h, c'est week-end, les vacances et autres. Donc, il faut vraiment être lucide. Et effectivement, comme tu l'as très bien dit, savoir qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier en quelque sorte, qu'est-ce qu'on est prêt à donner.
Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier et puis vraiment, pour moi, l'accueil des gens, c'est un métier, c'est une vocation. Oui. C'est-à-dire que il faut aimer accueillir, il faut aimer recevoir, il faut aimer ce qu'on fait. Si on le fait pour une autre raison, déjà si on le fait financièrement, bon, bah, c'est pas le meilleur job du monde, hein. C'est pas celui qui va vous. Voilà. Et quelle partie de sa vie privée on est prêt à sacrifier ?
Quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, Céline ? Qu'est-ce que tu réponds maintenant ?
Je réponds que je suis aubergiste. J'aime beaucoup ce mot.
Ah oui, j'adore.
Parce que c'est ça, parce que la maison étant une ancienne auberge et que bah, l'auberge, c'est vraiment c'est de là que vient le proverbe qui dordine. Ça veut pas dire que en fait il faut pas manger le soir ou que machin. Non, qui dordine, c'était ce qu'il y avait écrit dans les auberges avant. C'était pour dire que seul celui qui dort peut dîner. Et c'est la définition de la chambre d'hôte. C'est ça. Et donc il y a un nom pour ce métier et pour moi je trouve que c'est aubergiste.
Ah, j'adore, parce que je pose souvent la question et souvent on est un peu tiraillé, gérant, mais j'aime pas ce mot, propriétaire, ben oui, mais ça résume pas ce que je fais. Ah, ben là, ça y est, je crois qu'on a trouvé un terme qui effectivement est vraiment est chaleureux, évocateur de plein d'images et est complètement oui. Pertinent. Ah, bah, super.
Voilà, j'aime beaucoup ce mot.
Alors, comment les auditeurs peuvent-ils te contacter ? Est-ce qu'ils peuvent te solliciter pour avoir quelques conseils et discuter un petit peu avec toi sur justement encore ton parcours et puis et solliciter tes recommandations ?
Évidemment, j'ai déjà eu d'ailleurs des personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant voilà, est-ce que vous prendrez le temps de m'aider dans mes questionnements, etc. Et je sais que j'ai manqué de ça, moi. J'ai manqué de ça avant d'ouvrir. J'ai trouvé très peu de personnes qui ont pris le temps de me conseiller parce qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, cette crainte de la concurrence. Il ne faut jamais avoir peur de la concurrence. Ça, c'est mon quatrième conseil que tu ne m'as pas demandé, mais que je donne quand même. Ne jamais...
Génial.
Ne jamais avoir peur de la concurrence parce qu'il n'y a pas deux personnes comme vous. Voilà. Donc, il n'y aura pas deux maisons comme la vôtre. Donc, n'ayez pas peur de la concurrence. Faites ce qui vous fait plaisir et voilà. Et donc, bien évidemment, je suis à la disposition des auditeurs qui veulent des conseils, un peu plus de détails, plus précis par rapport à eux, s'ils ont des questions. Et attention, selon ma propre expérience, c'est tout. Je ne peux pas donner des... Tu as, je pense, bien plus de visibilité, toi, par rapport à ce que tu fais depuis des années en ayant interviewé tout un tas de d'aubergistes. Moi, c'est juste par rapport à mon expérience que je peux conseiller, évidemment. Et ils peuvent me joindre. Bah, écoute, il y a tous les contacts sur mon site internet, www.maisonmastrorelli.com. Et sur Instagram, pareil, je suis à Maison Mastrorelli. C'est moi qui gère la page. C'est moi qui gère les messages. Voilà.
Parfait. On arrive déjà à la fin de cet échange qui est fort agréable et donc j'ai pour habitude de terminer avec deux questions. La première étant, quel établissement te fait de l'œil pour y séjourner le temps d'un week-end ?
Ah, oh là là ! Il y a un hôtel que je veux faire depuis longtemps qui est à Saint-Raphaël, c'est les Roches Rouges.
Super !
Voilà, parce que j'adore ce coin de la Riviera. Voilà.
Bah, je mettrai les coordonnées dans les notes de l'épisode. Et pour finir, en musique, quel titre illustre ou reflète le mieux pour toi l'état d'esprit de Maison Mastrorelli ?
C'est le titre « Quintessence » de Quincy Jones.
Ah, je ne connais pas ! Il faut que j'aille écouter ça vite.
Il y a un vinyle à la maison, une platine vinyle. Et quand ce titre passe, c'est un peu l'emblème musicale de la maison. Le salon, tout de suite, il prend des dimensions bien plus grandes qu'il n'est déjà. C'est Quincy Jones, c'est du jazz et ça représente, je trouve, bien l'esprit de la maison.
Magnifique. J'ai hâte de découvrir ce titre. Ben, Céline, ça y est, c'est terminé. Je voudrais te dire un grand merci pour tout ton temps, les magnifiques conseils que tu as partagés tout au long de notre échange. J'ai hâte de voir la suite. Et puis c'est tout. Encore un immense merci.
Merci à toi et très bonne continuation avec ce beau projet qui est là justement pour aider tous ceux qui démarrent ou qui sont en cours d'activité. Et bravo à toi. À très bientôt, Laura. Au revoir.
Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non ? Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast, c'est pareil. Aussi, je vous serai très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. À très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte.